après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter de Liège-Bastogne-Liège 2024. C'est la fin de la saison des classiques, de cette campagne de classiques 2024. On a enchaîné les classiques italiennes avec les Strade Bianche, on a fait les Flandriennes avec le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Le Troyes et autres. Et il y avait les Ardennaises ces derniers jours avec évidemment l'Amstel, la Flèche Wallonne et pour finir la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. Nouvelle édition avec en tête d'affiche bien évidemment Tadej Pogacar qui venait pour prendre sa revanche par rapport à l'année dernière où il avait chuté. On avait Mathieu Van Der Poel qui allait essayer de faire un incroyable triplé Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège. Pas de Remco Evenepoel, tombé au Pays Basque. Bref, voilà, il y avait quand même des absents, mais on a vu une liste intéressante avec du Richard Carapaz, du Ben Hilly, du Van Sevenant. Il y avait Egan Bernal qui participait aussi à son premier. Il y avait des Français, Benoît Cosnefroy, très en forme. Romain Bardet était aussi là, Romain Grégoire. Voilà, on avait quand même du coureur intéressant, mais il y avait Pidcock aussi, bien sûr. Bref, mais il y avait quand même un coureur qui était attendu, c'était Tadej Pogacar, et c'est peu dire qu'il n'a pas déçu. Il a remporté Liège-Bastogne-Liège, son sixième monument. Tadej Pogacar s'est imposé avec une trentaine d'avance sur Romain Bardet, qui a été absolument exceptionnel lors de cette course. Absolument brillant, impressionnant même. Romain Bardet, troisième, Mathieu Van Der Poel. Alors, je reviendrai sur ce que je pense de la performance de Mathieu Van Der Poel, qui fait quand même troisième et qui va chercher un podium très intéressant. Maxime Van Gils, qui était probablement le plus fort avec Romain Bardet derrière Pogacar. On mentionnera aussi Carapaz, qui a tenté de prendre la roue de Poggi. Skelmoseux, qui s'est fait complètement péter la casse-bas en essayant de suivre Pogacar. Donc Van Gils fait 4, Paré-Pinte fait 5, Van Sevenant fait 6, Madouas c'est 7. Donc on a quand même les Français qui ont bien performé. Paul Lapeyra, 11e. Donc voilà, il y a quand même des super résultats pour les Français. Cosnefroy, 16e. Mais tout le monde s'est incliné devant Tadej Pogacar, qui nous a fait une Remco Evenepoel des dernières années, à savoir une attaque tranchante, décisive, dans la côte de la Redoute. Il n'y a eu personne pour le suivre. Van Der Poel avait déjà reculé à ce moment-là. Van Der Poel qui avait déjà été piégé par une chute à plus de 100 km de l'arrivée. Moi, j'ai cru honnêtement que Van Der Poel ne rentrerait pas. Pidcock aussi avait été distancé. Bon, ils sont rentrés, mais ils avaient peut-être dépensé un petit peu d'énergie. Puis de toute façon, je pense qu'il n'y a rien à faire face à Pogacar, qui a placé du coup une attaque dans la côte de la Redoute, plutôt tôt en plus, pas dans les pourcentages les plus élevés. Pogacar était seul. Skelmoseux a tenté. Carapaz est celui qui a le plus tenté de prendre la roue de Pogacar. Il l'a suivi sur 200-300 mètres, mais il n'y avait rien à faire. Il a fait comme Remco, il a attaqué dans des pourcentages dans la côte de la Redoute, et ensuite il est parti, il a fait 35 km tout seul, personne ne l'a accompagné. Derrière, un groupe s'est détaché, avec trois Français, Romain Grégoire, Ben Hilly, ce bon vieux Ben Hilly qui est jamais avare d'efforts, Romain Bardet et Benoît Cosnefroy. Voilà, ce groupe de quatre qui s'est ensuite fait reprendre par un groupe plus gros où il y avait notamment Van Der Poel. Il y avait Van Gils aussi qui était très costaud dans le gros groupe. Voilà, ensuite Evenepoel s'est échappé et s'est retrouvé seul et facile dans la côte des Forges et dans la côte de la Roche aux Faucons. Voilà, il n'y a eu absolument aucun problème pour lui. Il n'a cessé de creuser l'écart comme il l'avait fait au Strade, comme il l'avait fait sur les différentes étapes du Tour de Catalogne. C'était largement le plus fort. On sait qu'en plus, c'était une journée qui était chargée en émotions pour lui aujourd'hui, parce que il y a tout juste deux ans jour pour jour, la mère de sa compagne, Urs Kazigart, quittait, décédait. On le savait, c'était chargé en émotions pour lui. Il courait autant pour lui que pour sa compagne aujourd'hui. Et donc, il avait à cœur de réaliser cette performance-là aujourd'hui à Liège. En plus, évidemment, il prenait sa revanche par rapport à l'année dernière et cette chute où il s'était cassé le poignet et qui avait entaché toute la suite de sa saison et sa préparation, notamment pour le Tour de France. Là, aujourd'hui, il a remis les pendules bien à l'heure. Voilà, il est sûr. Cette course-là qui lui correspond pour moi autant que le Tour de Lombardie, c'est le monument qui lui convient le plus. Voilà, il est intouchable et il n'y a que un Remco Evenepoel sur des classiques d'un jour. Parce que je suis pas sûr que sur des classiques comme ça, même s'il est très très fort, notre ami Jonas puisse le bousculer. Il n'y a que Remco qui, sur un type de parcours comme ça, peut l'embêter. D'ailleurs, on le voit, hein, Pogacar, il a fait clairement ce que fait Remco Evenepoel. Il a attaqué dans la redoute et puis il est parti tout seul, 35 bornes. Personne pour le suivre derrière. Il arrive avec un gros écart à l'arrivée. Et puis voilà, on se retrouve sixième monument pour lui. Il rejoint du coup Mathieu Van Der Poel. Trois Lombardies, deux Liège, un Tour des Flandres. En attendant potentiellement les prochains, mais voilà, sur ce type de parcours avec du dénivelé, des pourcentages très durs, Pogacar, on a l'impression qu'il se balade. Son équipe, en plus, a contrôlé comme il le fallait, mais je veux dire, il avait vraiment besoin que d'un coureur pour faire le tempo dans les bosses. Et après, voilà, il fallait attaquer, et il n'y avait strictement personne pour se mettre dans la roue du Slovène, qui remporte du coup Liège pour la deuxième fois après 2021. Cette fois-ci, il était arrivé seul. Tadej Pogacar, qui a tué tout suspense, hein, on n'a eu absolument aucun suspense lors de cette course, mais par contre, on a eu Romain Bardet qui nous a fait rêver, parce que j'en parlais tout à l'heure, une fois que Tadej Pogacar a attaqué, un groupe de 4 s'est formé, et il y avait quand même deux difficultés très difficiles à aborder, puisqu'il y avait la côte des Forges, 1 km 300 à quasiment 8%, et la côte de la Roche-aux-Faucons, 1 km 300 à 11%, et le plus fort des 4, on avait Ben Illy aussi, mais qui était très costaud et qui aide toujours sur un groupe de 4, il mettra ses coups de pédale. Mais Romain Bardet a montré un niveau absolument énorme et a rappelé à tout le monde le coureur exceptionnel qu'il était et qu'il était encore capable de faire des performances absolument exceptionnelles. On le sait, c'est une course qui lui convient très bien, ce Liège-Bastogne-Liège. Il avait déjà fait podium en 2018, il avait déjà fait 4 top 10 du coup auparavant. Donc c'est une course qui lui convient bien et c'est absolument stratosphérique le niveau qu'il a montré Romain Bardet. Je veux dire, derrière Pogacar, c'était le plus fort. Il a tenu derrière... comment dire ? Derrière, il a tenu tout le monde en respect. Il a surtout lâché ses petits partenaires d'échappée, là, le groupe de 4. Mais... il a tenu, il perd pas tant de temps que ça sur les dernières ascensions par rapport à Pogacar. Donc il avait un niveau vraiment, vraiment de folie. Et puis surtout, il a vraiment couru à l'instinct, plus aussi à la puissance qu'il avait dans les jambes. Voilà, il a lâché les mecs à la pédale. Et après, il s'est pas fait prier, quoi. Enfin, je veux dire, il a continué à regarder, il a pas regardé derrière, parce que ça rentrait derrière, t'avais des gars très forts qui mettaient des attaques, t'as Bernal qui a mis des attaques, t'as Maxime Van Gils qui était très costaud, qui a mis 2-3 cacahuètes aussi, clairement, t'avais des mecs qui étaient puissants, mais lui, il s'est pas du tout regardé, et puis, il a aussi profité du fait que le gros groupe après Van Der Poel, avec Van Der Poel, rentre, et Van Der Poel faisait figure d'épouvantail dans une potentielle arrivée au sprint, d'ailleurs, il l'a prouvé, parce qu'il fait 3e le champion du monde. Mais Romain Bardet, voilà. Et puis moi, ce qui me fait plaisir en le voyant, c'est surtout ces larmes à l'arrivée qui montrent tous les sacrifices et la difficulté de ce sport. Le mec a quand même vécu, il a quel âge maintenant, Romain ? Il a 33 ans, il a fait des podiums sur le Tour de France, il a gagné des étapes sur le Tour de France, il a fait 2e des championnats du monde, et là, il a vécu quand même des dernières années plutôt... plutôt difficile quand même en termes de voilà des abandons sur le tour, des contre-perfs. Voilà, il a eu beaucoup de critiques très dures à son égard, et là il sort une perf vraiment exceptionnelle où je veux dire, moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse 2e de Liège, clairement pas, et ça annonce que du bon pour le Tour d'Italie, puisqu'il va faire le Tour d'Italie, le Giro, hein, qu'il avait fait en 2022. Je veux dire, voilà, on peut attendre de grandes choses de la part de Romain sur le Giro, vu le niveau qu'il a montré là, hein, je le dis. Dans les ascensions, je trouve que par rapport à Pogacar, il perd vraiment peu de temps. il a tenu tout seul en respect un groupe de mecs qui se mettaient des cachous. Voilà, respect quoi. Enfin, je veux dire, la trace que laissera Romain Bardet dans le cyclisme français est absolument exceptionnelle. Il a énormément de places d'honneur. Voilà, c'est aussi ce qui fait son charme. Mais ce qu'il fait aujourd'hui sur Liège, putain, il était vachement puissant quoi. Il a été vachement puissant et. Bah moi j'ai juste envie de le, comme je disais, j'ai juste envie de le voir sur le Giro quoi. Je n'attends que ça maintenant. Je veux dire, fais-moi rêver maintenant. J'ai envie de te voir performer sur ces courses-là. Quoi d'autre? Mathieu Van Der Poel, 3e. Course particulière de Van Der Poel qui vient quand même encore chercher un top 10 et un podium de monument. Mais il a été globalement, on le sentait un petit peu en bout de course, et sans doute que la perf, cette contre-perf du côté de l'Amstel était annonciatrice de ce qui se passerait sur Liège. C'est vrai que beaucoup de personnes disaient qu'il était en capacité de concurrencer Pogacar. Faut pas oublier que c'est une course avec quand même plus de 4000 mètres de dénivelé, sur des pourcentages très durs, et que là-dessus, Pogacar, il est quand même imbattable, on est sur son terrain de jeu. Et je pense que Van Der Poel n'a pas encore la préparation pour être dangereux. Il montre qu'il faut quand même compter sur lui et que si jamais la décision ne se fait pas avant sur un groupe au sprint, il est capable de remporter la course. Mais avec des extraterrestres comme Remco ou Tadej, ça me paraît un peu short pour Mathieu. Mais avec une préparation ciblée, imaginons qu'il fasse le Tour des Flandres, qu'il fasse Paris-Roubaix, puis qu'entre-temps il aille faire du dénivelé. Plus affûté, peut-être moins lourd, il sera sûrement en capacité d'être plus qu'un poil à gratter. Mais voilà, il fait quand même encore, il fait 3e de Liège. On peut pas dire qu'il. Mais il n'a pas pesé sur la course. Vous voyez, je pense qu'il fait 3e, mais qu'il y a un paquet de coureurs derrière lui qui étaient plus forts que lui. Évidemment, Van Gils, Cosnefroy aussi, Bernal, Carapaz, tout de suite, voilà, Vansevenante, voilà, c'était des mecs qui étaient plus costauds que lui, mais lui, il a eu ce punch voilà, au sprint pour aller monter sur la 3e marche. Voilà pour ce Liège qui nous aura pas procuré un grand suspense, mais respect éternel à Tadej qui encore une fois mis dedans. 6e monument pour lui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.